en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier, Monsieur l'Ambassadeur, chers confrères, chers amis, l'année va bientôt s'achever, telle que l'a conçue pour nous notre confrère Gilbert Guillaume. Noël approche, je vais donc vous raconter une étonnante histoire, celle de la renaissance du Saint-Siège, évacué de la vie internationale en 1870, et de sa restauration, grâce à l'état de la cité du Vatican en 1929, au point de devenir une puissance influente, bénéficiant d'une popularité exceptionnelle aujourd'hui dans la vie internationale. Voilà donc l'histoire. Le mardi 20 septembre 1870, les Bersaglieri du général Cadorna ouvraient une brèche dans le mur aurélien, à l'ouest de la Porta Pia sur le Quirinal. Ils conduisaient l'invasion de Rome au bénéfice du jeune royaume d'Italie. L'unité, acquise en 1864, s'était arrêtée à Florence. Elle parvenait à son but, grâce à la guerre franco-prussienne, au départ des Français et à la flamme garibaldienne qui alimentait un ardent patriotisme chez les Romains eux-mêmes. Le cardinal Antonelli, secrétaire d'État d'un pape âgé, 78 ans, et très éprouvé, craignit un affrontement sanglant. Il fit négocier un compromis par le général Kanzler, chef d'état-major des forces armées des États pontificaux, avec le général Cadorna. Celui-ci avait sous ses ordres 50 000 hommes. Le Saint-Siège, 13 000, pour une population de 700 000 habitants, dont des zouaves pontificaux, ardents et décidés à en découdre. Il fut convenu que l'affrontement serait réduit au minimum nécessaire pour faire constater l'usage de la force. Il en résulta 56 morts et 141 blessés. La revendication du pape martyr allait nourrir une diplomatie de la patience, cher au cardinal Casaroli, sous Paul VI et ses successeurs. La capitulation de Rome fut signée le 20 septembre 1870 à la Villa Albani. Pie IX se déclara prisonnier dans les palais apostoliques, érigés au fil des siècles autour de la basilique constantinienne, au lieu dit Vatican, lieu de prédiction dans l'Antiquité, cimetière où fut inhumé le pape Saint-Pierre en 68 après Jésus-Christ. Les fouilles archéologiques ordonnées courageusement par Pie XII confirmèrent cette tradition orale. Ordre avait été donné aux troupes à la conquête de Rome de s'arrêter à l'entrée du pont Saint-Ange sur lequel veillaient les anges du Bernin et de ses disciples. Dès lors, la question inédite se posait. Quel statut aurait le souverain pontife, le pape, au sein de l'URSS, voire de l'Italie, face au roi Victor Emmanuel II? Quel statut aurait le gouvernement central de l'Église? Se créait ainsi un nœud gordien entre trois cordes très serrées. Le Saint-Siège et l'Italie, une Europe très attentive et un monde relativement peu concerné. Mais avanti. 92 ans plus tard, le 25 octobre 1962, le deuxième concile du Vatican à peine ouvert, Jean XXIII lançait sur les ondes du Radio Vatican, à midi et en français, un vibrant appel à la paix. Le conflit sur les missiles russes en voie d'installation sur des bases à proximité de Cuba atteignait son paroxysme avec l'ultimatum envoyé par Kennedy à Khrouchtchev. Le bon pape Jean, comme on dit, ouvrait un appel à la paix par une citation forte de l'Ancien Testament. Je cite, « Seigneur, écoute la supplication de ton serviteur, la supplication de tes serviteurs qui craignent ton nom. » Il poursuivait, « Cette antique prière biblique monte aujourd'hui à nos lèvres tremblantes du fond d'un cœur ému et affligé. Nous renouvelons aujourd'hui cette solennelle adjuration. Nous supplions tous les gouvernements de ne pas rester sourds à ce cri de l'humanité, qu'ils fassent tout ce qui est en eux pour sauver la paix. Ils éviteront ainsi au monde les horreurs d'une guerre dont nul ne peut prévoir quelles seraient les effroyables conséquences. » Fin de citation. Cet appel, suivi d'effets spectaculaires, ne fut pas opéré sans consultation préalable, voire sans requête express de la part des deux grands, et probablement davantage de l'URSS pour masquer son renoncement devant la froide détermination du président Kennedy. Et encore, le 26 février 1980, un communiqué des délégations argentines et chiliennes indiquait qu'un échange d'idées, SIC, était intervenu sous la forme d'un tableau comparatif, un inventaire des textes qui permettait, qui exprimait la position de chaque parti. Le conflit autour du cardinal de Beagle, du canal naturellement, perdurant depuis près d'un siècle entre les deux nations était réglé par une médiation. Le Saint-Siège réussissait là où la haine d'Angleterre avait échoué dans une tentative d'arbitrage. Ces exemples récents suffiraient pour instruire si, par exemple seul, on pouvait déduire une analyse de la place du Saint-Siège et du Vatican dans la vie internationale. Or, la grande question est la suivante. Par quel coulissage entre l'histoire et le droit international en est-on parvenu à la qualification du Vatican comme « troisième grand » selon l'expression de l'hebdomadaire L'Express en 1979. Et même à qualifier le pape François de quatrième personne la plus importante du monde, après Barack Obama, Vladimir Poutine et Angela Merkel, dans un reportage télévisé sur les secrets du Vatican récemment. Soit si l'on préfère, comment le pape martyr, le souverain captif, selon l'expression que j'ai empruntée à André Tardieu, a-t-il pu être relayé par un souverain pontife, arbitre possiblement décisif dans les relations internationales, en exerçant qui plus est des droits qui lui furent reconnus au titre d'accord tardif grâce à l'Italie fasciste. Histoire et droit international se croisèrent pendant près de 150 ans pour aboutir à cette influence spectaculaire du Saint-Siège et du Vatican, deux termes qui sont aujourd'hui en relation métonymique, quoique. Le Saint-Siège est à ce point aujourd'hui lié à la personnalité du pape qu'on oublie les débats autour de l'état de la cité du Vatican. Siège du gouvernement central de l'Église, dont la nature n'intéresse plus guère les juristes eux-mêmes. Or, cette alliance en 1929 fut fondamentale et discutée. Même si le terme de Vatican fut employé après 1870 dans les médias, et celui de Saint-Siège de préférence dans le vocabulaire diplomatique. Du souverain captif à la quatrième personne du monde la plus influente, le pape, pacificateur et superstar, comment en est-on arrivé là ? Du souverain captif. Je suis désolé, c'est collé. Oui, c'est gentil. Les mois qui s'écoulèrent entre la capitulation et les propositions de la monarchie italienne d'une loi des garanties le 13 mai 1871 furent décisifs pour l'avenir du Saint-Siège. Le pape devait-il quitter Rome ? Mais l'exil à Gaète en novembre 1848, après la proclamation de la Seconde République romaine et surtout la tutelle de Ferdinand II, roi des deux Siciles, pendant 17 mois, avait instruit Pie IX des fers de la dépendance du Saint-Siège. Pourtant, un départ avait été envisagé au soir du 20 septembre vers Madrid. C'est dans cet entre-deux que réapparut la thèse médiévale fameuse du « Ubi Papa, Ibi Roma ». Reprise par Corneille, qui savait ces choses, avec le fameux vers de Rome, « Rome n'est plus dans Rome, elle est tout où je suis, dans Sertorius ». Elle justifiait les absences répétées des souverains pontifes de l'époque, voire leur désertion du diocèse dont la papauté relevait, notamment au XIIIe siècle. Mais s'y opposa au XVe siècle, quand la papauté se fixa à Rome, la thèse en vertu de laquelle le pape et Rome ne faisaient qu'un corps unique et indivisible. Laquelle de ces deux thèses influença Pie IX, on ne saurait le dire. Le fait est que Rome refusa d'accepter la loi des garanties, je veux dire Pie IX, acte unilatéral présenté au pape après un vote plus que majoritaire du Parlement italien. Il persista dans son refus de quitter les palais apostoliques du Vatican. L'Italie n'envisagera jamais d'expulser le pape, sacrilège par excellence. Deux mots peut-être importants sur la disparition de la présence physique du souverain pontife, du paysage non seulement romain, mais italien et même européen, jusqu'aux accords du Latran de 1929. Pie IX, très discuté par les Romains et les élateurs de l'unité italienne sous son autorité, les néo-guelfes avant 1850, se prenait très volontiers dans Rome à pied, peu ou pas entouré. Il pouvait suivre un enterrement à l'improviste avec un parapluie troué. Cette popularité du pape explique la permanence d'une image romaine qui ne cessera jamais d'engendrer une sympathie spontanée pour le Saint-Siège et le pape. Ou encore, comme disent encore aujourd'hui les Romains, la Chiesa, dès lors qu'il ne gouverne pas les affaires italiennes, naturellement et quoique. Le dessin, l'image et la photographie pour maintenir une représentation d'évocation du pontife romain. Et le Saint-Siège, sans siège, fut dorénavant désincarné. Le pape en personne ne réapparaîtra qu'au soir de l'élection du Pie XII, le 3 mars 1939, apparition triomphale. La loi des garanties offrait au pape nombre de dispositions favorables à l'exercice de sa charge. Étrange loi, dont l'article 1 énonçait, je cite, la personne du souverain pontife est sacrée et inviolable. Et l'article 3 traitait en souverain sikh le pape en déclarant « Le gouvernement italien rend au souverain pontife sur le territoire du royaume les honneurs souverains et maintient la prééminence d'honneur qui lui est reconnue par les souverains catholiques. » La loi laissait au pape, l'article 5, la jouissance des palais apostoliques du Vatican et du Latran. L'ensemble était exempt de toute taxe ou charge et déclaré inaliénable. Précaution jugée sans doute inutile au moment où quelques cardinaux, tels le cardinal de Mérode, mettaient en vente certains biens ecclésiastiques relevant de leur titulature et permettaient l'ouverture de la via nationale. Le conclave était permis et protégé, article 8. La libre circulation des personnes garantie, article 11. Celle des citoyens confirmée. Le thème était maintenu. Le télégraphe relié au réseau téléphonique de Rome offrait l'État. En matière de rapport entre État et avec l'Église, il était établi que, je cite, « les évêques ne seraient pas requis de prêter serment au roi », article 15. Mais l'article 18 couronnait le tout par un « il sera pourvu par une loi postérieure à la réorganisation, conservation et administration des propriétés ecclésiastiques dans le royaume ». Cependant, article 4, une donation ou rente annuelle de 3 227 000 lire était inscrite au grand livre de la dette publique, sous forme d'une rente perpétuelle et inaliénable au nom du Saint-Siège. L'Italie et l'État italien ceinturaient la papauté et indemnisaient le souverain pontife pour solde de tout compte. Il réglait dorénavant les dépenses d'une institution qu'il rétribuait. Le pape devenait le sujet souverain du roi d'Italie, un vassal souverain sans territoire. Lucide, Pie IX constata amèrement « non un territorio, un palazzo ». Il s'enferma dans l'espérance d'une restitution de la Rome pontificale par l'intervention d'une ou de plusieurs puissances étrangères, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, voire la France. Autant d'utopie, on ne saurait dire laquelle. Ce rêve allait gouverner la diplomatie de son successeur. Léon XIII, ancien nonce à Bruxelles, cardinal Camerlingue, élu à l'âge de 78 ans à la chaire de Saint-Pierre. C'est avec lui que la diplomatie pontificale retrouva une nouvelle audience internationale. On peut souvenir que la prise de Rome, en septembre 1870, fut la chance historique de la papauté et du Saint-Siège emprisonné. Elle y dégagea des soupçons d'appui intéressés dans des conflits impliquant une base territoriale. Elle s'éleva, et elle l'éleva à la hauteur d'une souveraineté morale, parce que spirituelle et respectée. Il revint à Bismarck de donner à Léon XIII les moyens de construire les éléments d'une situation internationale perdue sous Pie IX, et qui, osons le dire franchement, conduirait à la médiation du canal de Beagle quasi 100 ans plus tard. Elle offrait à Paul VI et elle lui offrira la tribune de l'ONU le 4 octobre 1965 sur la fin du Concile, dans la dernière session. Donc une nouvelle donne. Dès octobre 1870, le chancelier, qui, pour autant, ne ménageait pas les catholiques allemands, comme on le sait, perçut en visionnaire la force diplomatique possible de la papauté dans les relations internationales. Il hésita à faire intervenir Pie IX pour trouver un accord paisible entre la Prusse et la France. Il en fit parler au cardinal de Bonnechose, archevêque de Rouen, et dans le même moment, il se rendit compte de son horreur, de son erreur, de son utopie. La République française menait son combat. Les milieux d'affaires allemands exigeaient l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine. Et même davantage, la donne était sur la table implacable, il n'y avait rien à négocier. Bismarck, dont la diplomatie revenait, on le sait, à un jeu avec 5 boules, dont 2 étaient toujours en l'air, réserva son action pour une opportunité. Le conflit avec l'Espagne sur les îles Carolines en 1885 la lui offrit. La situation frôlait le ridicule. L'Allemagne, qui avait colonisé les îles Yap au sud des Philippines, revendiquait un archipel quasi désertique, recouvert et découvert, occupé par l'Espagne. La médiation inattendue et sollicitée de Bismarck, repérée par Léon XIII, maintint la possession des îles aux Espagnols, lesquelles furent revendues à l'Allemagne en 1899, ironie de l'histoire, à la suite de la guerre hispano-américaine. La médiation entre l'Allemagne et l'Espagne deviendrait un exemplum en matière de diplomatie pontificale. Son exercice par le Saint-Siège, c'est déjà dit, était lié à la neutralité garantie par l'absence de tout État. Mais si l'on suit l'analyse faite par Jean Zaffiresco de la médiation est un arrangement ou une tentative d'arrangement par l'intermédiaire d'un ami commun qui cherche et propose une formule d'entente. Elle, je cite toujours, peut être offerte spontanément, demandée ou due en vertu des stipulations antérieures. Mais elle ne peut pas se produire sans le consentement des parties ou du médiateur. En revanche, toujours selon Zanfiresco, le tiers qui s'impose par ses bons offices n'a besoin d'aucun consentement pour donner des conseils à l'une ou l'autre des parties. Tandis que la médiation ne peut exister que sans le consentement, ne peut exister sans le consentement des parties ou des médiateurs. Cette première différence en entraîne une autre. Le tiers qui interpose ses bons offices ne fait que préparer le terrain de l'entente. Et une fois les parties en présence, il se retire, laissant celles-ci traiter directement. Le médiateur ne quitte pas les parties. Il prend une part active aux négociations, il les dirige et propose des arrangements. L'arbitrage en France, en revanche, choisi par les parties en conflit, qui termine la question à trancher, est plus coercitif. La sentence rendue en exécution du compromis a force obligatoire d'un caractère conventionnel. Le médiateur est un conciliateur, l'arbitre est un juge qui dit et fait l'application du droit. Je ne suis pas sûr de ce point. En l'occurrence, on peut dire que Léon XIII fut un ami de Bismarck, on ne peut pas le dire. Néanmoins, le souverain pontife se prêta volontiers à la demande de celui-ci, dans le cas d'une politique européenne recherchant ses appuis éventuels pour la restitution toujours de Rome en faveur du Saint-Siège. C'est ainsi que Léon XIII fit beaucoup de concessions, lui-même d'ailleurs. Il interdit la fondation d'un parti catholique en France en 1885, il proposa le ralliement en 1892, il fractura les droites et il s'éloigna du Zentrum comme Pion le fera plus tard envers le Parti populaire italien en 1922, à l'avènement du fascisme. Et c'est par ces concessions bilatérales que le Saint-Siège établit fermement sa position dans les relations internationales. 16 médiations ou bons offices lui furent confiés entre 1885 et 1903, dans des conflits aussi divers qu'entre le Portugal et la Belgique, ou la France et la Belgique sur des questions d'investissement, ou entre les États-Unis et l'Espagne sur Cuba. Cuba déjà. Cet appel à la diplomatie pontificale s'est poursuivi sous Pie X et Benoît XV. Mais Pie X fut essentiellement un pasteur exigeant. Le Saint-Siège, en revanche, ne réussit pas à sortir du bilatéralisme et à figurer dans des instances ou des conférences internationales. Pourtant, le Congrès américain le qualifia en 1901 de « personne morale de droit international », le Congrès américain. L'Italie gardait la haute main sur le Saint-Siège. Elle mit son veto absolu à sa participation à la conférence de La Haye en 1889. Cette position devait durer jusqu'aux accords du Latran. Un fait est là. Malgré sa position nette pour demeurer au-dessus de la mêlée, les tentatives du Saint-Siège pour empêcher ou arrêter les grands conflits furent autant d'échecs. L'entretien entre Pie X et le comte Maurice Spalfi, ambassadeur d'Autriche-Hongrie près le Saint-Siège, le 28 juillet 1914, fut stérile. Le pape en mourut selon l'historiographie italienne. Et malgré les mises en garde de son entourage, la note du 1er août 1917 adressée au jeune empereur Charles Ier de Habsbourg eut un effet revolver. Le Saint-Siège suggérait la paix en Europe et faisait des propositions territoriales, notamment la restitution à la France des provinces perdues et une compensation pour l'Allemagne vers l'Est. L'ensemble était inadmissible après 3 ans de combat pour tous les belligérants. Benoît XV s'était jeté dans une aventure que l'article 15 du pacte de Londres du 26 avril 1915 entre le gouvernement italien et les représentants de la Triple Entente lui interdisait implicitement. L'Italie soumise avait vendu, c'est le mot, son intervention au flanc de l'Entente contre la promesse que la question romaine serait exclue des négociations de paix. La négociation de cette note par le général Gaspari, secrétaire d'État de Benoît XV, fut impossible. À la conférence de paix, Mgr Cerretti, envoyé par le souverain pontife comme observateur, fut soigneusement écarté par les soins sans ménagement de Clémenceau et d'Orlando. C'est à ce moment-là que le Saint-Siège ressentit la précarité de sa situation dans la naissance vers la confection d'un nouvel ordre mondial dominé par les puissances hostiles à sa voie, très éloignée de son histoire. Inversement, par un effet de ciseaux, vainqueurs et vaincus ressentirent vivement le poids spirituel du Saint-Siège dans le conflit, qui généra de nouvelles ferveurs et un retour à la foi chrétienne, voire une découverte pour marcher dans le désert de la barbarie. La neutralité compassionnelle de la papauté dans un conflit où elle avait signé sa marque profondément internationale, sans frontières, sans espoir pacifique, sauf la paix, suscita pendant les années d'après-guerre de la considération. Laquelle ignorait sa situation de souveraineté politique en location sur le territoire italien, voulait du moins l'ignorer. L'Italie fit partie des grands frustrés de Versailles. Les grands engagements pris à Londres en 1915 ne furent pas tenus. Si Bismarck favorisa l'entrée du Saint-Siège sur la scène internationale, la Première Guerre mondiale et sa résolution favorisèrent la création de l'État de la Cité du Vatican sous la souveraineté du Saint-Siège. On pourrait dire que la marche sur Rome le 28 octobre 1922 illustra parfaitement la situation dans laquelle se trouve au lendemain de la guerre le Saint-Siège et les nations. Un affrontement idéologique national par suite de vainqueurs et de vaincus et un affrontement à la revanche ou la compensation face aux avocats de la paix. Le fascisme naissant est pris en étau entre des catholiques désormais électeurs et éligibles et la voix d'une papauté qui, selon peut dire, a théorisé la guerre et la paix au regard d'une analyse reprise à Saint Thomas sous le pontificat de Léon XIII. Mussolini voulait se réconcilier avec l'Église d'Italie, le pape voulait clarifier la position de ce Saint-Siège qui n'était pas un État. Ces deux grands fauves de l'histoire de l'Italie et de la papauté dans l'entre-deux-guerres, Mussolini et Pie XI, négocièrent dans une grande ambiguïté, n'étant dupes ni de l'un ni de l'autre. L'histoire parlait en faveur du Saint-Siège, qui disposait en l'occurrence d'un instrument juridique remarquable, le concordat. Le système concordataire, qui a essentiellement pour objet de réguler la relation entre l'Église et l'État, signifie dans ce cas précis de mettre en accord la loi civile et les règles canoniques du Saint-Siège, lequel, en quelque sorte, depuis 1917, disposait de l'équivalent d'une constitution qui lui est propre. Le code de droit canonique fut rédigé par le soin du cardinal Gaspari, fruit d'un long travail entrepris sous Pie X et révisé en 1983. Il était la synthèse de tous les textes promulgués par le Saint-Siège depuis le décret de Gratien du XIIe siècle. Le code de 1917 établissait, tel un gouvernement, une stricte répartition des tâches apostoliques. La fonction de secrétaire d'État, plutôt président du Conseil que Premier ministre, couvrait deux sections importantes, aux titres variés selon les époques. L'une pour les affaires intérieures, l'Église ad intra, et l'autre pour les affaires extérieures, l'Église ad extra, la plus importante pour la politique internationale du Saint-Siège. Les accords du Latran furent signés au palais du Latran, siège de l'évêché de Rome, dont le pape est titulaire, le 11 février 1929, entre Benito Mussolini et le cardinal Gaspari, secrétaire d'État de Pie XI. Il s'agit d'un triptyque. Un règlement financier, relevant de la proposition faite dans la loi des garanties en 1871. Un concordat, réglant des dispositions réciproques sur les libertés propres de l'État italien et faisant du catholicisme une religion d'État. Et la création de l'État de la Cité du Vatican. Le Saint-Siège renonçait à toute prétention sur Rome. Sa souveraineté spirituelle symbolique était confortée par une souveraineté territoriale qui pouvait agir comme un porte-voix ou, si l'on veut, comme un porte-avions. Tout est là qui va entraîner de grandes discussions entre juristes jusqu'au milieu des années 1950. Le texte est pourtant très clair. L'Italie reconnaît la souveraineté du Saint-Siège dans le domaine international comme un attribut inhérent à sa nature, en conformité avec sa tradition et avec les exigences de sa mission dans le monde. Article 5 des accords du Latran. Et en échange de la reconnaissance par le Saint-Siège du Royaume d'Italie, sous la dynastie de la Maison de Savoie, de Rome comme capitale de l'État italien. À son tour, l'Italie reconnaissait l'État de la Cité du Vatican sous la souveraineté du souverain pontife, article 26. Rome était surtout définie comme Città Sacra, la mention disparue lors de la révision de 1989. Le vif débat entre juristes peut être résumé sous la forme de quatre écoles, dont je pense que je ne citerai pas les quatre, quitte à constater auparavant que nul État lié avec le Saint-Siège n'a jamais mis en doute l'existence juridique de la Cité du Vatican. Une première école regroupe des auteurs refusant de reconnaître la personnalité internationale du Saint-Siège étant une personne non étatique. Pour ces auteurs, avec la perte des États pontificaux sur les pionniers, le Saint-Siège avait perdu toute personnalité internationale. Le souverain pontife était devenu un simple sujet du royaume d'Italie. Après les accords du Latran, ces auteurs se divisent en deux catégories. Pour les uns, la création de l'État de la Cité du Vatican avec les accords du Latran a fourni un support territorial suffisant. Pour les autres, la Cité du Vatican ne présente pas les critères permettant de la considérer comme un État. En conséquence, le pape ne dispose pas d'un support lui permettant de bénéficier de la personnalité juridique internationale. Selon une deuxième approche, la prise de Rome n'a pas mis fin à la souveraineté temporelle du pape. En effet, son pouvoir serait diminué demeurait intact sur les palais du Vatican. Et les accords du Latran n'ont rien changé à la situation, sinon que ceux-ci ont été reconnus par le royaume d'Italie. Pour un troisième groupe d'auteurs, si l'on veut, la personnalité internationale du Saint-Siège serait le résultat d'une concession de la part de tous les États. Le recteur Gilbert Didel, qui a vécu les deux périodes, avant et après les accords du Latran, distinguait deux types de personnalités juridiques internationales, les personnes normales et les personnes artificielles. Les personnes normales, c'est-à-dire les États, répondent aux critères organiques permettant de déterminer si oui ou non on a affaire à une personne internationale. La formalité de la reconnaissance de celle-ci n'a qu'une valeur déclarative. Selon Gidel, toujours, il existe parallèlement des personnes artificielles qui ne répondent pas aux critères résultant du droit international. Dans un tel cas, et c'est important, la reconnaissance revêt une valeur attributive. C'est dans cette seconde catégorie qu'il faudrait rattacher le Saint-Siège. Cette doctrine a été notamment reprise après les accords du Latran. Enfin, un dernier groupe considère que les relations entre l'Église et les États ne sont relevées du droit international qui est essentiellement territorial. Elle relèverait d'un ordre juridique particulier, distinct du droit international public, le jus inter potestates. Dans quelle mesure les accords du Latran modifièrent-ils la situation du Saint-Siège ? Mis à part la liberté et l'indépendance appelées à s'exprimer au cours et non à cause de la Seconde Guerre mondiale, ils permirent au Saint-Siège d'adhérer à des organisations internationales. Elles furent de plus en plus nombreuses, si ce n'est qu'aujourd'hui, il est même observateur permanent dans beaucoup d'entre elles. Si le Saint-Siège, Pion se félicitait de la création de la SDN, qu'il qualifiait de mère des nations, il la jugeait assez sévèrement comme repère de francs-maçons et de protestants. Pion regrettait que la SDN fût incapable d'imposer, je cite, à toutes les nations une sorte de code international adapté à notre époque, analogue à celui qui régissait au Moyen-Âge cette véritable société des nations qui s'appelait la chrétienté. Encyclique Ubi Arcano. Dès sa première encyclique, Summi Pontificatus, Pie XII relancera l'idée de l'urgence d'une organisation internationale des États. Surtout, il reviendra avec insistance et à maintes reprises dans les allocutions des 10 novembre et de mars 1939 sur cette idée. Après avoir salué les entretiens de Dumbarton Oaks, dès 1944, visant à réaliser ce projet, le pape, conscient des limites d'une telle entreprise, soutiendra néanmoins ses efforts en envoyant des observateurs permanents partout où il le pouvait, notamment auprès des organisations internationales dont la FAO et l'UNESCO à Paris en 1952, mon cher confrère. Sa situation de neutralité, conforme à son statut, allait permettre au Saint-Siège une coordination parfaite entre sa politique extérieure et ses observations sur la vie intérieure des États. Mais la discordance la plus flagrante se manifesta dans l'entre-deux-guerres. Discordance entre un concordat et les fruits de la négociation. Au quasi-lendemain des accords du Latran, Mussolini, déployant son projet, reprit sa politique de menace et ses agissements envers les catholiques, et notamment auprès de la FUCI, Fédération universitaire catholique italienne. Pie XI répondit par l'encyclique Non abbiamo bisogno, le 29 juin 1931. Le paganisme de l'État fasciste fut dénoncé en termes très ecclésiastiques. Le Saint-Siège n'avait pas de vrai langage politique, il n'y en avait que sur le plan de la défense de la chrétienté. Et même, il fut conduit à flirter avec le modèle clérico-fasciste rêvé par le Duce. De la même façon, le concordat signé avec Hitler en juillet 1933, 6 mois après à peine l'avènement du nazisme, aboutit à l'encyclique Mitbrennender Sorge, avec une brûlante inquiétude, constate plus qu'à une manifestation forte. Il était trop tard, et Pie XII le regretta plus tard. La politique extérieure dans la diplomatie du Saint-Siège joua sur des équilibres précaires. Elle s'est poursuivie dans le même style avec l'élection du cardinal Pacelli le 12 mars 1939, secrétaire d'État du pape Ratti, rédacteur principal de l'encyclique Mitbrennender Sorge avec le père Leiber, jésuite allemand. Il n'est pas lieu d'ouvrir ici l'épineux dossier du Saint-Siège et du Vatican, c'est-à-dire de Pie XII dans la Seconde Guerre mondiale. Sauf à rappeler la fameuse phrase de Pie XII, « Je ne veux pas de collaborateurs, mais des exécutants ». Elle explique beaucoup de choses. La question du silence de Pie XII ne se posa qu'en 1964 avec l'apparition de la pièce de Hochhut, le vicaire, qui fit scandale et fut interdite à Rome et en Israël. Pie XII fut populaire dans le monde entier jusqu'à cette date. Atlantiste et hanté par l'expansion du communisme, Pie XII, grand théologien, gouverna par la parole et le dogmatisme grave. stigmatisant la guerre à l'égard de ses prédécesseurs, il ouvrait les yeux sur l'Europe et ses institutions, la CECA, la CED, la CE. On parlait d'Europe Vaticane, le terme lancé en France par ses adversaires, les adversaires de la politique européenne du MRP, servit à désigner ses responsables comme des instruments dociles entre les mains d'un pape qui aurait été, je cite, « acquis par anticommunisme et philo-germanisme à une petite Europe, expression du monde libre de l'Occident ». Le fait est que pour le chef de l'Église universelle, l'Europe ne s'identifiait pas à la culture ou à la civilisation européenne. Pie XII n'appelait pas de ses voeux une Europe démocrate chrétienne, mais tout simplement une Europe chrétienne. L'Europe était pour lui un idéal qui transcendait les affrontements diplomatiques des partisans. Quitte à décevoir certains analystes de Pie XII, celui-ci, s'il a condamné le communisme totalitaire en 1949, n'a jamais appelé une croisade contre l'Europe soviétique. C'est la thèse qui est développée par les partisans du vicaire. Celle-ci était menée au nom d'un libéralisme qui était assaisi aux origines du totalitarisme contemporain. La longue agonie de Pie XII, premier événement diffusé sur les magazines par l'instruction de son médecin, signa la fin d'une époque dogmatique et pastorale séparatiste dans la vie de l'internationale. Très européenne, et malgré qu'on en eût, le Saint-Siège eut une politique encore italienne, la parole du pontife allait être confrontée inopinément, si l'on peut dire, au monde. Convergence et alliance. Donc, au lendemain de l'acte final de la conférence de Zinghi, le 1er août 1965, l'hebdomadaire L'Express tira sur sa couverture le Saint-Siège, troisième rang. La participation du Saint-Siège à la conférence sur la sécurité et la coopération européenne, comme full member, avait été sollicitée par l'élu du FAC de Varsovie dans le cadre d'un certain dégel dans les relations Est-Ouest grâce à Vatican II. Et dans la perspective de tirer de cette rencontre des avantages stratégiques et symboliques, cette proposition vient en écho de celle faite en 1899 par le comte Mourajeviev dans une lettre adressée à Léon XIII. Il exposait qu'il s'agissait de mettre un terme aux armements incessants et de prévenir les calamités qui menacent le monde entier. On ne peut donc pas concevoir un projet plus pieux. Léon XIII avait fait répondre qu'il agréait au projet russe, mais qu'il apparaîtrait, et il s'agirait pour le Saint-Siège, qui ne participe pas, de fonder la paix sur un droit public chrétien. Un long échange du Saint-Siège, observateur ou consultant, avait fait valoir que la conférence devait être en place dans une instance internationale, arbitrage et médiation. La conférence fit avancer la cause du droit international d'arbitrage, et j'ai fait une erreur que notre confrère Guillaume a rectifiée, et créa la Cour permanente d'arbitrage, je sais que c'est faux. L'histoire est connue, mais bridée par sa position de colonie autonome en Italie, celle-ci même son veto à la participation du Saint-Siège à la conférence. Je saute la conférence d'Helsinki et j'en arrive au concile, parce que je vois que le temps est contre moi. Le 11 octobre 1962, l'ouverture du 21e concile œcuménique était retransmise en Eurovision. La longue procession des 2540 pères conciliaires en manteau et mitre blanc, fermée par le pape en sedia gestatoria, faisait le tour du monde à l'époque. L'immense œuvre conciliaire, 16 documents, fut l'objet d'une attention mondiale inattendue et croissante au fil des 4 ans de son déroulement. L'an aux uns, hâtif aux yeux des autres. La présence de plus en plus forte de l'Église catholique sur la scène internationale se combina avec la prise de Cuba, du 14 au 28 octobre 1962, résolue par la médiation, déjà parlé, exercée par Jean XXIII. Diplomate aux airs débonnaires, fourbeau, comme on dit en italien, ce qui veut dire grand rusé, on se rappelle sa résistance à l'épuration de l'épiscopat exigée par Georges Bidault en 1944, Angelo Roncalli fut le troisième diplomate, après Benoît XV et Pie XII, à être choisi par le conclave. Constatant son impuissance à empêter de grands conflits, le conclave cherchait à les gérer. En 1959, le camp des attentistes porta son choix sur un souverain pontife expert et en tant que délégué apostolique en Bulgarie, Grèce et Turquie. De culture moderne, moderniste, disaient ses détracteurs, le concile allait l'entraîner plus loin que prévu. Menacé de devenir un foyer conciliariste, la conjonction des espérances de la papauté et de celle d'une majorité qui se forma graduellement, non sans difficulté, favorisa une œuvre architecturée. Œuvre dans la constitution Gaudium et Spes, décembre 65, et l'expression confuse et fondamentale de la rencontre avec le monde contemporain. Enfant mal aimé de Vatican II, la future constitution Église dans le monde moderne de ce temps suscita un chantier inimaginable. Son objectif, hélas, outrepassait les formes intellectuelles de nombreux pères conciliaires, notamment à cause de l'usage du latin. Le chanoine Hoffmann, un des rédacteurs avec le belge Mgr Philippe de la mise en forme et de la lumière d'un texte probable, qualifia la démarche que considère globalement de révolution copernicienne. On peut dire autrement qu'il s'est agi d'inverser le syllabus et de procéder à un examen des attentes du monde, plutôt que de rappeler au monde les attentes de l'Église selon sa mission de figure du royaume. Oh, c'est effrayant. Pardonnez-moi, j'aurais dû le décoller avant. La liberté religieuse et la question sociétale furent au cœur d'intenses débats sous le regard du monde entier. La crise de l'aggiornamento se répandit dans le monde d'une vitesse stupéfiante. En utilisant ce terme chargé d'éviter le mot « réforme », en soulignant la pastoralité, je cite, de l'Église, en exprimant la mission du Saint-Siège de l'Église romaine sous la belle formule de « experte en humanité ». Le Saint-Siège et le Vatican s'infiltrèrent dans une anthropologie très exigeante et l'effort de concilier l'anthropologie non-chrétienne avec l'anthropologie chrétienne. Entre le dogme et la pastorale, Paul VI tenta en vain de trouver un équilibre en tant que pontifex, avec la publication de l'encyclique Humanae Vitae du 25 juillet 1968. Elle fut aussitôt dénommée l'encyclique de la pilule. Il s'agissait plutôt d'une réécriture contemporaine du Cantique des Cantiques et d'un plaidoyer pour le droit naturel effacé par le droit positif et l'individualisme. Sa date tombe au plus mal. Le monde était entré en pleine contestation générationnelle. Le pape atteignit un sommet d'impopularité qui occulta son œuvre pastorale. Mais, dans l'ordre international, le pape se trouva au zénith avec son voyage à l'ONU du 4 au 10 octobre 65, au début de la quatrième session du Concile. Annoncé par ses soins lors de la deuxième et avant-dernière session du Concile, le 4 septembre. Il fut secrètement préparé par le Saint-Siège et le Vatican depuis 1965, puisqu'il possédait le statut d'observateur permanent à l'ONU, sans droit de vote comme il convient à sa neutralité. C'est à l'occasion de son voyage que Paul VI prononça le célèbre discours sur la paix. Il suffit de rappeler que le sang de millions d'hommes, que des souffrances inouïes et innombrables, que d'inutiles massacres et d'épouvantables ruines sanctionnent le pacte qui nous unit en un serment qui doit changer l'histoire du monde, l'histoire future du monde, jamais plus la guerre, jamais plus la guerre. C'est la paix qui doit guider le destin des peuples et de toute l'humanité. Le voyage fut commenté par les médias du monde entier. Et le Saint-Siège entra dans l'âge des foules mondiales, malgré lui, sous le règne de Benoît XVI. Tous les successeurs de Paul VI furent le voyage en Terre Sainte, ils intervenaient tous à l'ONU, et ils transformaient les 10 voyages de Paul VI sur les 4 continents en pèlerinage apostolique aux résonances logiquement politiques. Jean-Paul II fit 3 fois l'équivalent de la Terre à la Lune en voyage. De grandes célébrations liturgiques rassemblèrent d'innombrables personnes. Et le pape polonais eut une intuition en 64 en créant les Journées mondiales de la jeunesse, devenues chez les participants les « Je marche pour Jésus ». L'élection de 1995 aux Philippines, l'édition, connut un succès triomphal avec la présence de plus de 5 millions de jeunes. Paul VI, en 1968, s'est prononcé pour une question qui intéressait déjà la jeunesse née après les JMJ, sans avoir pu apprécier pas plus que les États le saut que la démographie accomplissait. Il épousa un chant d'église, un tédéum, à une chanson pop égotiste. C'est à partir d'Humanae Vitae que la doctrine de l'Église devint secondaire par rapport aux attentes du monde moderne très sécularisé, et non moins attentif aux affirmations concernant la vie privée, l'intimité et la conscience. Il en résulte un double combat pour le Saint-Siège, celui qu'il mène sur le plan mondial, dans une politique extérieure commandée par sa mission, celui qu'il mène sur le plan de la personne quant aux attentes d'un aggiornamento sur sa conception de la vie et de l'homme. La défense des droits de l'homme, dans le cadre de sa neutralité, est devenue un combat accepté, respecté et sollicité. L'os politique conduite par Paul VI et ses successeurs a réussi. Elle est l'effet de la conjonction étroite et difficile entre la méthode des petits pas, chère au cardinal Casaroli, et celle des coups de boutoir, propres aux premières années du pontificat. Il est vrai que dans certains cas, on a pu reprocher à cette méthode d'accréditer des régimes dont l'idéologie ne correspondait pas aux aspirations du Saint-Siège. Mais au bout du compte, il n'en est pas moins vrai que les JMJ, par capillarité et grâce aux médias, ont contribué à la chute, à sa façon, du mur de Berlin et au voyage de Gorbatchev à Rome en décembre 1989. Le trouble jeté par le Saint-Siège dans les relations internationales avant et après la guerre froide fut rendu évident avec l'attentat contre Jean-Paul II le 13 mai 81. Les investigations sur cet événement spectaculaire et mondial se produisent encore. Il occupe des rayons entiers d'une bibliothèque de spécialistes. La mort mystérieuse de Jean-Paul Ier et celle des papes en général constituent paradoxalement à hausser le Saint-Siège sur le plateau des énigmes et de son influence dans le monde et sur le monde. L'ultime version des fauteurs de l'attentat de 1981, j'arrive presque au fond, Monsieur le Président, révélé par un article publié dans Playboy, article devenu une rareté, disparu des bouquinistes, à partir de 1985, d'une collusion entre la CIA et le KGB. En un mot, la suppression d'Agener. Le général Jaruzelski, devenu président du Conseil des ministres polonais en février 1981, engendra au Saint-Siège la peur d'une invasion déjurée de la Pologne, occupée par l'Union soviétique de facto. À l'occasion de Pâques, Jean-Paul II exprima ses craintes en public sur la place Saint-Pierre et sa détermination à se rendre en Pologne dans le cas où la situation empirerait. Le 13 mai 1981, au moment où l'audience publique à hauteur de la porte de bronze, Ali Aksa turc tirait sur lui à bout portant deux balles avec un 7,65 Beretta. Il le manquait de très très peu. Pour la première fois dans l'histoire, le souverain pontife apparaissait à l'hôpital dans la pauvreté d'un survivant convalescent. La Providence entrait dans l'image du Saint-Siège et bouleversait la considération formelle et rituelle due jusqu'alors à sa fonction. À bien considérer les choses, conclusion, de 1870 à nos jours, un fil d'or relie toutes les situations du Saint-Siège avec le monde, avec le monde international, composé d'actions et de réactions face à des contentieux entre nations économistes antagonistes abritant des concessions diverses. De la médiation sur les îles Carolines aux bons offices, sollicitée en juillet dernier par l'opposition vénézuélienne et le président Maduro pour résoudre une crise sociale et proche de la guerre civile, jusqu'à aujourd'hui. Des déclarations de Léon XIII sur le désarmement ou la médiation sur Cuba, à la signature de l'accord sur le désarmement signé par Benoît XVI en 2010, de la rencontre du patriarche Kirill avec le pape François à Cuba le 12 février 2016, le pape, le fil est le même. Présence, dialogue, identité, instaurare omnia in Christo. La déclinaison de cette mission sacrée aboutit au fil des années à l'existence d'un pape jésuite, qui, selon la méthode de Loyola, procède par discernement, dialogue, frontière. Entre frontières et dialogue du possible, disons. Entre les participants au dialogue, qu'ils soient invités par des institutions étrangères ou qu'ils les favorisent lui-même. Un diplomate félicitait le cardinal Casaroli, secrétaire d'État de Jean-Paul II, étant à la tête d'être la plus grande diplomatie du monde. Le cardinal répondit : « J'aimerais savoir alors quelle est la seconde. » Le Saint-Siège et le Vatican disposent de réseaux comme tout État. Le Vatican est probablement le plus grand confessionnal du monde, directement ou indirectement. Le secret de son sacrement, la pénitence, fait l'objet de quantités de livres, de spéculations, d'investigations et de romans. Il crée un flux de communication hors pair, sans être toujours opératoire. C'est pourtant par un officier allemand que le nonce à Bruxelles annonça l'invasion immédiate de la Belgique et des Pays-Bas à Léopold III en 1940. En revanche, je termine. Ce sont les services secrets français, sur le témoignage d'Alexandre de Marange et de Christine de Crunch, le secret des princes, qui affirmèrent le Vatican d'un attentat très probable, plus que probable, sur la personne du pape au début de mai 1981. Il n'en fut visiblement pas tenu compte, sauf à ce que le pape ait voulu prendre un risque providentiel. La France est toujours la fille aînée de l'Église. Merci.
Je vous remercie beaucoup, chers confrères, de vous être aventurés, bien qu'étant essentiellement historien sur le terrain du droit, en nous montrant comment, à travers le refus de la loi des garanties, puis les accords du Latran, puis l'évolution du rôle du Saint-Siège, on est passé d'un pape prisonnier, comme vous avez dit, d'un pape captif, à un Saint-Siège qui joue un rôle non négligeable dans les relations internationales. Et je vais maintenant donner la parole à nos confrères qui souhaiteraient le prendre. Et tout d'abord, le président Gattaz.
Oui, merci à nos chers confrères de nous avoir donné des informations que nous n'avons pas habituellement. Nous sommes généralement tenus au courant de ce qui se passe au Vatican par le cardinal Etchegaray. Nous lui disions qu'il était notre agent de liaison avec le paradis, avec le purgatoire. Malheureusement, il l'est absent depuis longtemps. Alors, ma première question que j'avais écrite rapidement sur ce bout de papier, chers confrères, vous y avez répondu par les derniers mots de votre communication. C'était « La France est-elle vraiment toujours la fille aînée de l'Église ?» avec un point d'interrogation important. Car il y a quelques... C'est la première question. Oui. Enfin, vous y répondrez facilement. La deuxième question est la suivante. Notre nouveau pape étant un réformateur, vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous l'avez employé ce mot à plusieurs reprises, Donc il est un innovateur. Et moi, j'aime beaucoup les innovateurs, vous le savez. Malheureusement, les innovateurs brisent les traditions. Bah, il ne faut que ça. Alors on les traite de ravageurs, on les traite de destructeurs. Vous connaissez tous la destruction créatrice de Schumpeter. Et c'est vrai qu'on ne peut pas modifier les choses sans des trucs un petit peu qui existaient avant. Or, le Vatican était le temple même des traditions, puisque jadis, un mauvais esprit avait traité le Vatican, vous savez, de fontaine pétrifiante, ce qui n'était pas très gentil, et sans doute inexact. Alors, ma question est liée aux récentes nominations de 17 cardinaux intervenus, je crois, la semaine dernière. J'ai remarqué qu'il y avait 5 Européens seulement, ce qui prouve le statut mondial et international qu'y a donné le pape à ses cardinaux. Il a raison, il y en a 12 hors d'Europe, 5 Européens. Malheureusement, il n'y a pas de Français dans les 5 Européens, vous l'avez remarqué. Il y a un Belge, il y a 2 Italiens, un Espagnol et un Albanais. Alors, est-ce que pour vous, ça a une signification ou est-ce que ça n'a aucun caractère de gravité? Et ma troisième et dernière question est la suivante, elle est un peu reliée à la première. Est-ce que vous croyez que le pape va garder avec la France des rapports internationaux de ses prédécesseurs ou risque de changer un peu les relations diplomatique entre la France et le Vatican?
Alors, cher confrère.
La première étant dernière, était liée à la première, bien sûr.
Oui, le micro.
Le micro. Bon, et peut-être de rapprocher également le deuxième micro, si vous pouvez, qui est un petit peu loin. Voilà.
Alors, la question des rapports entre le CHH actuellement, donc du pape François, et du Vatican, qui est l'organe de gouvernement, se pose vraiment, elle est régulièrement posée, elle se pose dans le domaine politique plus que dans le domaine, je dirais, dogmatique, quoique la situation actuelle du pape François a engendré des situations paradoxales, puisque c'est au sein même des catholiques pratiquants, ou disons, proches du christianisme, que les plus grandes réserves sont exprimées, et ce sont les indifférents, les agnostiques, même les anticléricaux, il y en a encore, qui trouvent que ce pape est d'une modernité foudroyante et qu'il répond à toutes les questions que l'on peut dire d'ordre de la morale individuelle ou personnelle ou sociétale, avec une pertinence qui convient. C'est le problème de la différence entre la théorie et sa pratique. C'est un paradoxe, parce que c'est la première fois vraiment que la chose se produit de façon aussi forte, et que ce qui s'est passé au moment de Vatican II et de l'encyclique Humanae Vitae n'est rien à côté. Bon. Alors c'est un pape qui vient de loin, comme il a été dit par lui-même et par son prédécesseur, enfin dire son anti-prédécesseur, et qui n'a pas de culture européenne, même s'il est jésuite. Et en principe, il bénéficie d'une formation qui est universelle, mais c'est plus ou moins approprié au pays, au tempérament. Enfin, c'est un jésuite. Et il est incompréhensible pour beaucoup plus de Français que d'Allemands ou d'Espagnols, et même d'Italiens, parce que la France est un pays laïque, comme on le sait, et que sur certains points, où il ne se décide pas assez, par exemple, le point des divorcés remariés, ou bien il a des paroles ambiguës, comme par exemple sur l'homosexualité, ou sur la question de la pratique de la communion, ou de l'adoption, etc. Alors, je dirais que la situation du pape, c'est qu'il n'est pas européen, il n'est pas venu en France. Je crois qu'il a peut-être ignoré que Strasbourg était en France quand il est venu à Port-le-Vent-Strasbourg. J'en sais rien, c'est une belle tuta, la batuta, comme on dit. Mais c'est assez étrange qu'il soit le seul qui n'ait pas fait une visite en France. Voilà. Parce que la France, un peu comme les Romains, est fascinée par le pape. Donc il y a ce paradoxe aussi. Bon. Donc, alors il se trouve aussi que depuis maintenant un certain temps, il n'y a pas de grande figure cardinaliste au Saint-Siège, donc au Vatican. La situation de la France en 1965, à la fin du Concile, était extraordinaire. Il y avait 13 cardinaux français. qui travaillaient à la curie ou qui étaient des cardinaux résidentiels. Là, il n'y en a pas beaucoup. Je n'ai pas cité lesquels, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, il n'y aurait pas une influence flagrante et déterminante et même un levier pour intervenir auprès du Saint-Siège. Donc, c'est un cas spécifique. Je crois que le pape est indifférent au tempérament et que sa position est très difficile à comprendre pour des Français. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu aux trois questions, mais il y a à peu près. Voilà, c'est un cas. Moi, je n'ai pas d'opinion. Enfin, je ne dirai pas publiquement mon opinion, parce que ce n'est pas lieu. Nous sommes une compagnie savante. Je n'ai pas à faire ici état de mes états d'âme ou de mes opinions. Je raisonne simplement de facto.
Je vous remercie beaucoup. Monsieur Gaudemet.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup de tout ce que vous nous avez dit. Je voudrais revenir sur la période depuis la marche sur Rome, accord du Latran. J'ai compris que Mussolini, finalement, dès la marche sur Rome, donc au début du Ventennio, avait en perspective ce qui deviendra les accords du Latran. Et on dispose maintenant largement de la correspondance qui a été échangée, des notes diplomatiques. J'ai le sentiment aussi que, finalement, il était plutôt demandeur, Mussolini, jusqu'à aller à un certain nombre d'accommodements de caractère personnel. Sa situation, le baptême de Rachele, etc., tout ça, ce sont des éléments. Et aussi, seconde question que je voudrais vous poser, sur cette époque-là, comment est-ce que, finalement, l'expédition d'Éthiopie, qui concernait tout de même un empire chrétien, même si ça n'était pas l'Église romaine, a été comprise par le pape, et comment est-ce que finalement il a accompagné cette expédition, ou au contraire s'y est opposé pour des raisons que l'on pourrait comprendre aussi.
En fait, Mussolini est parfaitement demandeur, mais après avoir voulu marquer qu'il jugulerait l'influence du clérico-fasciste qu'il espère, en tout cas du cléricalisme, et il demande des sacrifices au pape Pie XI, qui est un pape concordataire. Il ne faut pas oublier que Pie XI, dès le début de son pontificat, cherche à négocier un concordat avec Lénine. Il poursuivra d'ailleurs cet axe URSS et maintenant Russie est une permanence du Saint-Siège, car il y a de grandes permanences. Et c'est ainsi aussi que Jean XXIII, qui a des relations très fortes dans les pays des Balkans, réussit à obtenir une conciliation au moment de Vatican II en faveur de la libération de Mitsenti, de Wyszynski, de beaucoup des pays de l'Est, etc., qui négocie fortement. Et il est lié avec El Jumaï, je veux dire qu'il en profite. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est à mon avis, il n'y a pas eu de grandes études qui ont été portées là-dessus. C'est Khrouchtchev qui demande à Jean XXIII de porter la négociation vers Kennedy. Bon, il est sûr qu'il y a eu des échanges téléphoniques, mais personne n'a vraiment investigué sur ça. Bon. Et je parle de façon scientifique. Bon. Il se trouve demandeur parce qu'il y a un persécuteur et un persécuté, et le persécuteur voudrait bien quand même que, tout en persécutant, il obtienne des amodiations d'une force politique. Et c'est la grande chose qui existe même en 23, c'est à la fin du PPI qui monte sur l'Aventin et qui relève déjà une épine du pied dans la politique de Mussolini. Alors, il y a un apaisement, c'est-à-dire après les accords du Latran, qui sont quand même l'objet de 10 ans de négociations. Hein, c'est-à-dire que c'est très long, c'est très pointilleux, etc. Et c'est le même Gaspari qui a fait le code de 1917 qui continue jusqu'aux accords du Latran. Et c'est un marché de dupes. Mais je dirais, il est plus favorable au Vatican sur le long terme que pour Mussolini. Et le pape continue à faire des concessions parce qu'il s'aperçoit que la persécution des catholiques italiens, les catholiques italiens sont une puissance intellectuelle aussi forte que celle de la France dans l'entre-deux-guerres. Il y a un catholicisme militant. La Fucci, quand même, c'est celle qui a comme aumônier principal le monseigneur Montini, etc. Donc, c'est un jeu de poids, de contrepoids. Et pour l'Éthiopie, le pape est très embarrassé, mais en même temps, évidemment, c'est un empire chrétien, comme vous dites, et d'autre part, il voit bien qu'il y a en face de lui un impérialisme italien qui a l'âge des foules, lui aussi. Bon. Donc, les ruptures sont toujours étranges, parce que vous avez lu, comme moi, ce livre récent sur Pie XI et dont j'ai oublié l'auteur. Parce que, oui, je sais qu'on en a parlé ensemble, parce que, je veux dire, le pape ne veut pas perdre l'Italie chrétienne, et il y a une limite pour Mussolini aussi, il ne peut pas faire ce qu'a pu faire de Hitler en Allemagne. Alors, ça se rompt, alors, la rupture officielle, c'est le fameux séjour de Hitler à Rome et le fameux film Une journée particulière, mais ça aussi c'est encore une façade. Bon. Et alors le bruit court dans l'historiographie italienne que Mussolini a fait empoisonner le pape. parce qu'il comptait lui faire une grande leçon, il l'empêchait, etc., pour ce qu'en était de ses attitudes d'Hitler. Ça n'a jamais été vérifié non plus. Mais c'est vrai que le pape meurt à temps. Donc il y a des coïncidences étranges dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment élucider. Et c'était très dur, mais enfin, il faut dire que la curie romaine, très romaine, était vraiment très partagée. Et que Pie XI avait un secrétaire d'État qui était tout de même pas très à côté de ce que sera Casaroli plus tard.
Je vous remercie. Monsieur Cotte.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier Philippe Le Vilain pour tout ce qu'il nous a appris et je voudrais quitter un instant l'histoire pour, de manière très concrète et sans doute trop administrative, mais c'est une question de déformation professionnelle, lui demander s'il peut nous expliquer brièvement comment est organisée la diplomatie vaticane. Est-ce qu'elle est très institutionnalisée ou est-ce qu'elle est à géométrie variable selon les questions internationales qu'il faut aborder ? Je m'explique. Est-elle, en dehors des initiatives que peut prendre le pape et des déplacements qu'il peut effectuer, déplacements donc souvent spectaculaires, vous l'avez rappelé tout à l'heure, est-ce qu'elle est autrement l'apanage du secrétaire d'État ou de tel ou tel ministère de la Curie, je n'utilise peut-être pas tout à fait les bons termes, ou est-elle, de manière prioritaire, confiée à des envoyés spéciaux, Yvan Gattaz évoquait tout à l'heure le cardinal Etchegaray, qui sont invités à se rendre à un moment donné, dans un pays donné, sur une question donnée. Bon, est-ce qu'il existe un domaine réservé, pour utiliser une terminologie à la française, qui serait parcimonieusement déléguée, j'avoue que je ne le sais pas. Et je ne le sais toujours pas. Si vous aviez la possibilité de nous le dire, ça m'intéresserait à titre personnel beaucoup. Merci.
Je vais vous répondre. Vous parlez du cardinal Etchegaray. Il est connu que le cardinal Etchegaray et René Raymond ont été mandatés expressément en Chine, mission secrète, pour, je dirais, prendre contact avec l'Église souterraine en 1978. C'est connu maintenant, et moi j'en ai reçu la confidence de René Raymond quand j'étais en poste à Rome à l'époque. Il y a des émissaires spéciaux qui effectivement sont envoyés selon les circonstances et qui négocient ou qui participent à cette politique des petits pas, d'ailleurs que les relations actuellement entre la Chine et sa siège le prouvent, un pas en avant, un pas en arrière. En général c'est au détriment du Saint-Siège, mais une persévérance très longue, que d'ailleurs Casaroli appelle aussi le martyr de la patience. D'essayer petit à petit, je veux dire, par des contacts, par des choses qui se relâchent du côté de Pékin ou du côté, comme ça s'est fait, du côté de Moscou pour le Concile. Alors ça, c'est une chose. Alors on ne sait pas toujours tout. Bon. Mais ça se sait. Alors le secret, pour le coup, fondamental, parce que quand on divulgue au Vatican une chose que l'on sait, au Vatican, je dis, puisqu'on parle, c'est nouveau de parler au pape dans les ascenseurs, etc., et de lui dire, écoutez, très Saint-Père, je voulais vous dire une chose, ça marche depuis quelque temps. Quiconque révèle quelque chose, c'est un peu le cas dans tous les pays, révèle quelque chose de très secret, voit brûler ses vaisseaux. C'est-à-dire, c'est terminé. Je veux dire que c'est quelqu'un qui... Il y a eu des ambassadeurs de France, ou même, il y a... Oui, ou des conseillers privés qui... On parlait trop, par conséquent, dans ce cas, ils deviennent brusquement des gens qui sont mis à l'écart par le silence religieux qui fait qu'on vous traite très très gentiment, mais on ne vous dit pas un mot. Alors ça, c'est un point. Il y a des missions secrètes, il y en a eu beaucoup, mais alors le reste est institutionnel. C'est-à-dire que, alors, cher Bruno Cotte, du point de vue juridique, tout ce qui relève des traités est signé par l'intermédiaire du secrétaire d'État, exceptionnellement par le pape. Le pape signe souvent uniquement même des encycliques ou des actes apostoliques qui relèvent évidemment de la pastorale et de l'exercice du magistère du Saint-Siège. Bon, ça c'est très important. Alors tout ce qui relève des démarches, tout à l'heure j'ai parlé des médiations et des bons offices, je prends l'exemple du Venezuela actuel qui n'avance pas. Le pape François qui a écrit au président Maduro que la situation sociale, économique et politique du Venezuela ne pouvait pas durer. Donc, et c'est lui qui, en retour, a reçu de la part du parti d'opposition à Maduro la demande de bons offices au sein duquel il se trouvait parmi d'autres, ce qui, je pense, n'était pas vraiment du goût du pape. Mais Et ensuite, il y a eu un jeu entre les deux, c'est-à-dire que Maduro a refusé, puis il est venu, le pape a invité le président Maduro au Saint-Siège, au Vatican, c'est pareil, tout ça, presque pas. Et donc, on est reparti sur cette négociation qui n'avance pas, mais qui a eu l'avantage de stabiliser les choses, puisque l'un et l'autre, les uns et les autres, ont accepté le principe d'un référendum, qui n'a toujours pas lieu. Donc, et c'est très long, regardez la médiation sur le canal de Beagle, elle a duré 10 ans. Donc, Jean-Paul II recueille les fruits de son prédécesseur, Paul VI. Et la difficulté était déjà établie depuis la fin du XIXe siècle. Bon, j'ai parlé de la reine d'Angleterre. Donc, c'est un système très cloisonné. Il y a des choses qui sont connues, d'autres moins connues. Mais je crois qu'il y a surtout une grande persévérance depuis 1885 et les accords des îles Carolines, à savoir que le Vatican suit une ligne d'intervention et de défense de la chrétienté et de ses intérêts. Si je vous ai répondu, j'ai pas peut-être d'autres exemples, j'en cherche, cher Bono, mais je ne trouve pas dans l'immédiat. En tout cas, Etchegaray, c'est sûr. Et alors, les noms sont des personnages très importants. C'est le représentant personnel du Saint-Siège. Il bénéficie de l'immunité comme tous les noms, enfin, comme tous les ambassadeurs, mais des personnages très importants. Benoît XV était nonce à Madrid. Voilà. Donc, je ne sais pas, dites-moi si je vous ai répondu à peu près correctement ou loin.
Je saisis juste la perche, là, si je puis dire. Oui, comment sont choisis les nonces?
Ah, ils sont choisis par sur proposition de la secrétaire d'État. Ils faisaient autrefois une école spéciale, qui était pas l'école des nonces, mais une école de formation sur l'ordre des nonces. Et ils sont nommés à la discrétion du secrétaire d'État, et surtout du secrétaire de la Congrégation pour les affaires extraordinaires, qui est en fait, d'ailleurs aujourd'hui, c'est le cardinal Torrent qui joue un rôle fondamental. Mais voilà, mais enfin, c'est une école, l'annonciature. N'oubliez pas, par exemple, que le cardinal Sodano avait été nonce au Chili. Il devient secrétaire d'État. Bon. Parce que moi, je pense qu'on doit parler de politique extérieure du Saint-Siège, non pas de politique étrangère. Rien n'est étranger au Saint-Siège en tant qu'universel. Donc on veut dire qu'il y a une politique extérieure aux intérêts propres dans le domaine dogmatique de l'Église. Mais c'est une politique extérieure, c'est pas une politique étrangère.
Je vous remercie. Monsieur Soutou.
Merci. C'était un exposé tout à fait passionnant sur une des questions les plus difficiles qui se posent non seulement aux juristes internationaux, mais aussi aux historiens des relations internationales. Et c'est uniquement à ce titre que j'ai la moindre autorité pour faire une remarque, et se terminera par une interrogation. Peut-être pas une question, mais une interrogation. Les prodromes de l'unité italienne, lorsque le sujet devient tout à fait aigu, en tout cas sous Napoléon III et sous Cavour, à Turin et à Paris, la question est posée très clairement. Cavour parfaitement compris le problème qu'allait poser l'unification italienne, qui pour lui, dès le début, devait comprendre un jour Rome capitale, selon le titre d'un magnifique discours, son dernier grand discours, qui encore aujourd'hui est émouvant à lire, enfin c'est absolument superbe. Rome capitale, alors évidemment plus de place pour le Saint-Siège au sens territorial ou souverain du terme. Mais quelle est la formule de Cavour? C'est l'Église libre dans l'État libre. C'est-à-dire une formule parfaitement en conformité avec le libéralisme, doctrine ou idéologie, comme vous voudrez. Ce qui est très intéressant, c'est que son partenaire Napoléon III, qui lui n'a pas le Saint-Siège sur son territoire, mais qui a des catholiques sur lesquels son régime s'appuie, il commence au début par évoquer l'idée d'une confédération italienne, comprenant différents éléments, et qui serait présidée par le pape, ce qui eût été une façon de retarder ou d'escamoter peut-être le problème que vous avez souligné. Puis quand ils se rendent compte que ce n'est pas possible, parce qu'il n'est pas question pour Cavour de se contenter d'une confédération italienne, Napoléon III suscite vers 1867, si je ne me trompe pas, d'un journaliste qui était souvent son porte-parole, une étude, pas simplement un pamphlet, c'est une véritable étude, je ne sais pas si le titre m'échappe un peu, n'est pas Rome, le pape et la France, enfin un titre de ce genre parfaitement clair, dans lequel l'auteur, évidemment, c'est très réfléchi. Il dit, mais au fond, le pape sera d'autant plus grand qu'il aura moins de territoire à contrôler, parce que son pouvoir sera pleinement spirituel. Et moins il aura de pouvoir temporel, plus il aura de pouvoir spirituel. Cette espèce d'équilibre entre les deux, répondant évidemment à la vieille tradition des deux glaives, enfin ça touche, pour cette époque, qui connaissait encore un peu de théologie, des domaines extrêmement sensibles. Bon. Alors, la suite, vous nous l'avez racontée, mais la République française, de son point de vue, en rompant les relations diplomatiques avec le Saint-Siège en 1902 et par la loi de séparation de 1905, réalise d'une certaine façon, je dis bien d'une certaine façon, le projet de Cavour de l'Église libre dans l'État libre. L'Église libre, les nominations d'évêques entre 1905 et 1920 ne concerne nullement le gouvernement français, ce qui est quand même une base essentielle à la liberté de l'Église, et l'État français, évidemment, a repris sa liberté par rapport au concordat napoléonien. La seule chose, c'est que cette formule d'inspiration, guillemets, libérale, elle souligne, enfin, elle fait apparaître tout de suite un problème, c'est que la République française a beaucoup de mal à admettre qu'elle n'a plus le contrôle, plus aucun contrôle sur les nominations d'évêques. D'où en 1920, le rétablissement des relations diplomatiques qu'après la guerre, Jeanne d'Arc canonisée, etc., tout le monde salue avec enthousiasme, mais qui comporte un intéressant condicile, c'est qu'à partir de ce moment-là, de façon informelle mais tout à fait précise, le gouvernement français a de nouveau son mot à dire sur les nominations d'évêques. Je ne vais pas entrer dans cette question délicate, je peux simplement vous dire que mon père, ayant été directeur d'Europe au Quai d'Orsay à certains moments, a eu à s'occuper de ça. J'ai des pièces à la maison, hein. Bon, c'est assez amusant. Donc, d'une certaine façon, l'équilibre libéral, dans le cas français, n'a pas fonctionné, pour des raisons qui mériteraient d'être approfondies. Et ce qui renvoie à la question qu'on vous a posée sur la fille aînée de l'Église, l'expression aujourd'hui, je la trouve plutôt ironique que correspondant à une réalité actuelle, en tout cas. Et j'aimerais que vous me disiez dans quelle mesure le rôle international du Saint-Siège n'est pas là, dans ce cas très précis, par le rétablissement des relations diplomatiques en 1920, au détriment de la liberté fondamentale de l'Église sur le plan religieux. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ou un équilibre au moins très difficile à établir entre les deux termes, et qui, à mon avis, est peut-être d'ailleurs problème, peut-être insoluble. Je vous remercie.
Je vous en prie.
Alors, s'il est insoluble, comment voulez-vous que je vous réponde? Je cherche ce que je peux, mais... Alors, la formule « l'Église libre dans l'État libre », c'est une formule de catholiques libéraux, c'est une formule ménésienne, d'ailleurs. Elle paraît la première fois dans l'Avenir, avec le premier numéro de l'Avenir. Donc, elle est reprise ensuite, elle constitue une sorte de charte, qui d'ailleurs, à l'époque, était plutôt, dans l'esprit de Lamennais, destinée à favoriser l'Église qu'à défavoriser l'État. C'était un équilibre très précaire dans une pensée qui était à l'époque encore très marquée par la division, par l'union entre l'Église et l'État et par la monarchie absolue, il faut le dire. Alors, ce qui se trouve, c'est que quand la séparation de l'Église et l'État, qui est prévue quand même par le congrès de Belleville déjà en 1868, il faut bien voir que c'est inscrit dans les mœurs, ça fait partie du parti radical, du radicalisme, de ce qu'est quand même un esprit des Lumières adapté à des fonctions démocratiques qui n'encombre pas le cléricalisme. D'ailleurs, à ce sujet, cher Jean-Yves Soutou, vous savez qu'il y a une différence entre cléricalisme et, d'autre part, anticléricalisme, si j'ose dire, parce que quand Gambetta prononce le fameux mot « le cléricalisme, voilà l'ennemi », en fait, il désigne l'excès de ce qu'est l'Église catholique dans la société française. Et notamment, comme le dit Mgr Py, je crois, à propos de la réaction catholique pendant le règne de Napoléon III, c'est l'idée que le cléricalisme est véritablement une sorte de poids sur la société française. Bon. Alors, la séparation de l'Église d'État est un peu une surprise dans ses conséquences pour le gouvernement français, parce que le pape est libre. Donc, il va nommer, entre 1905 et 1924 même, des évêques, on dit des évêques ultramontains.
C'est-à-dire qu'il ne se pique pas du tout d'être adapté à un pragmatisme qui lui a été dicté par les conséquences de la séparation. Il nomme des ultramontains grandins. Bon, ça fait quand même beaucoup, c'était très bien étudié par Marc Minier dans une étude sur l'épiscopat. Et donc l'Église se rend compte que sa liberté est précieuse. Et les relations qu'il reprend en 1920, en fait en 24, entre le gouvernement français et le Saint-Siège, sont difficiles des deux côtés, parce que personne ne veut lâcher. Il faut le faire, parce que la Première Guerre mondiale, j'ai fait allusion à ça, avec le retour d'une ferveur considérable dans la société française, amène, et puis notamment les intérêts tout de même de la France, devant le Saint-Siège, qui va trouver une solution en Italie. Alors, vous dites que c'est insoluble. Je crois que ça a été résolu quand même à Vatican II. À savoir que, et aujourd'hui c'est le cas, l'Église est libre dans l'État libre. Alors, inversement, toute la diplomatie, dont certains représentants, ou qui ont un représentant est ici, consiste à joindre les deux bouts de la chaîne. C'est-à-dire faire en sorte qu'on s'accorde sur les évêques qui vont être nommés. Alors, d'après un témoignage que j'ai quand j'étais à Rome d'annonce, le général de Gaulle ne s'est opposé qu'une seule fois à la nomination d'un évêque, que sinon il laissait le Vatican choisir sur la terna celui qu'il préférait. Bon, autrefois, il y avait une terna où l'État pouvait choisir celui qu'il préférait. Mais ça, c'est un témoignage qui n'a jamais été réfuté. J'en ai parlé à des proches qui m'ont dit, normalement, les archives ne sont pas vraiment toujours explicites, le général de Gaulle ne s'est jamais opposé aux nominations d'évêques. Or, il a quand même connu une sérieuse secousse dans les années 70, du point de vue des évêques qui, soutenaient les revendications ouvrières dans les années 70. Bon, c'est un point important. Alors, je ne sais pas, Jean-Laurie, si je vous ai répondu entièrement.
Je vous remercie et je donne maintenant la parole à M. Pitt.
Merci, Monsieur le Président. Merci, cher Philippe, de ces informations prises aux bonnes sources écrites, mais aussi orales. Et les confidences que tu nous confies sont très utiles. Donc, justement, tu évoques en confidence la mission secrète confiée par le pape au cardinal Che Garay et à
René Raymond.
Concernant la Chine, est-ce que l'on sait des choses sur les relations précises qui auraient eu lieu entre Jean-Paul II et Reagan, Margaret Thatcher, au moment de cette mise au point d'une politique incroyablement audacieuse de Jean-Paul II en Pologne et en Union soviétique? Est-ce qu'il y a eu concertation? Est-ce qu'il y a eu, parce que, bon, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de traces écrites de ces contacts, mais il est impensable que ça se soit passé de la seule volonté de Jean-Paul II agissant seul au Vatican.
Alors, cher Jean-Pierre, sur l'affaire de 80, je suis sûr de moi comme de l'univers. Il n'a pris aucun contact. Bon, aucun. C'est quand il a vu arriver au pouvoir, dire comme chef de l'exécutif Jaruzelski, qu'il s'est enflammé et que j'étais avec ma famille sur la place Saint-Pierre le dimanche de Pâques où il a dit nettement « j'irai en Pologne ». Donc ça, d'abord j'ai assisté au discours, et d'autre part la décision s'est éclairée pour moi, j'ai trouvé ça personnellement très audacieux, pour ne pas dire téméraire, et peu crédible, parce que le Vatican convient de division, c'est-à-dire que cet homme était décidé à y aller seul. Alors il était absolument impossible qu'un pape se rende seul et atterrisse sur un territoire, même sa propre nation, sans obtenir l'autorisation des autorités polonaises. Le pape François, dans le même ordre d'idée, ça est aussi un témoignage après, quand il est revenu de Corée du Sud, a dit brusquement « je vais atterrir à Erbil ». On lui dit « mais attends, c'est impossible, pour prévenir, il y a un protocole, etc. Bon. » Et l'affaire de Sarajevo, quand Jean-Paul II s'est rendu à Sarajevo, c'était contre vents et marées, contre la curie romaine, et d'après ce que je sais, ça a été un véritable tohu-bohu au Vatican de lui organiser ce voyage, parce qu'on pensait certainement qu'il allait vraiment être pris sous un feu de rafales, de tribitrailles, etc. Bon. Dans ce cas-là, je ne peux pas répondre, cher confrère, à ces questions extrêmement précises. Sauf que l'affaire de la Pologne, l'affaire de Sarajevo, l'affaire d'Erbil me paraissent relever de ce que le pape, véritablement, depuis indépendant et libre. Je peux aussi attester. Alors là, c'est vrai, c'est le cardinal Torrent qui l'a dit, par conséquent, je ne peux pas récuser ce témoignage, surtout qu'il est quand même très public. Quand Benoît XVI a voulu aller en Israël, le cardinal Torrent s'y est opposé. Donc il est allé voir le pape, il lui a dit « ce voyage est inopportun ». Et le pape y est allé quand même. Bon. Et c'était un voyage qui était réussi.
Bon. Et le programme que le pape avait ne plaisait pas au cardinal Torrent, et par contre, il le lui a dit. Donc, quand vous me posez la question de savoir ce qu'il a dit à Reagan ou à Thatcher, vous-même, à qui vous voulez, je ne peux pas démêler la vérité. Il y a certainement de grands experts qui peuvent le faire à ma place. Mais de l'extérieur, la volonté de Jean-Paul II était absolument ferme. Pour la Pologne, il n'y a pas l'ombre d'un doute, il y est allé, il serait allé.
Oh, merci. Le grand rabbin Corsia.
Merci, Monsieur le Président. Chers confrères, professeurs, merci beaucoup pour ces explications qui ont été lumineuses, comme toujours, avec notamment un distinguo formidable entre l'extérieur, les affaires extérieures qui ne sont pas les affaires étrangères. Et justement, dernière phrase, vous avez parlé du voyage en Israël. Il est évident que la déclaration du Vatican en 93, la reconnaissance de l'État d'Israël ne pouvait être amorcée que par Vatican II, c'est-à-dire par Jean XXIII et Jean-Paul et Paul VI. Parce que un acte de politique étrangère, de reconnaître l'existence d'un État, mais pour l'État d'Israël, renvoie à l'idée que l'Église a longtemps véhiculée d'un peuple condamné à l'errance. Or, s'il n'y a plus de condamnation à l'errance, c'est qu'il y a reconnaissance de la non-faute. Donc là, une question de politique étrangère prend un poids théologique essentiel. Comment vous voyez ça ?
C'est un dossier compliqué, cher grand rabbin de France, parce que je l'ai évité à dessein, parce que dans ce cas-là, il aurait fallu que je reste 3 heures ici, en ayant d'ailleurs une meilleure prononciation, laissons. La question à Vatican II a été tumultueuse. Bon, je dirais que l'héritage avant Vatican II était déjà tumultueux. Bon, parce qu'il y a une question théologique, vous dites fort bien, qui sera discutée dans ce que deviendra la déclaration Nostra Aetate. Et avant, il y a, je dirais, la figure ambiguë de Pie XII, qui, comme vous savez, est appréciée, je dirais, par Israël, déjà, jusqu'au moment où apparaît la pièce Le Vicaire. Mais le concile est commencé, il est sur le point de finir, il y a encore un an, et la déclaration Nostra Aetate n'est pas prête, mais elle est presque prête. Sans entrer dans le détail, pendant le concile, c'est avec Votium et Spes, donc, et la liberté religieuse. Bon. Le poids le plus névralgique, incandescent pendant 5 ans. Bon. Il faut savoir quand même que Pie XII, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est populaire auprès de bon nombre de Juifs, et que la question de savoir qui l'a sauvé, qui n'a pas sauvé, etc., elle n'est sauvée qu'en 64. Bon. Mais le grand rabbin d'Europe se convertit. Hein, et de Zoller, il devient Zoli.
C'est pas forcément une bonne nouvelle pour moi, mais...
C'est un acte individuel. Hein. Bon, c'est un acte individuel. Mais, enfin, il s'appelle Ander ou Anton, je sais plus. Il devient Eugenio et il se fait baptiser sous le nom d'Eugenio à cause de Pie XII. Bon. Et alors, il y a aussi en 43 la question de Rome ville ouverte. Bon. Et Pie XII est profondément populaire. Je dirais que c'est une découverte que le vicaire et ensuite Amen de Costa Gavras. C'est bien sûr un trouble dans les consciences. Bon. Et puis, d'autre part, la création de l'État d'Israël est une chose dans laquelle il y a aussi le point incandescent, non moins, de statut de Jérusalem. Et il y a des grandes négociations qui ont lieu, vous savez, dès 1950, avec Meyer Mendes, qui est en fait qui a un petit bureau à l'ambassade des États-Unis. Parce que cette affaire de la création de l'État d'Israël pose de milliers de problèmes, mais surtout Jérusalem, le Saint-Siège ne veut pas céder sur Jérusalem. Il propose, dès 49, il propose une situation d'internationalisation de Jérusalem. Ça ne marche pas. C'est pas vous dire ça. Alors, si je reviens très brièvement sur Nostra Aetate, la question qui se pose est celle, justement, de laver les Juifs de la mort du Christ et de l'accusation du déicide. Alors, moi, je fais partie de ceux qui considère, je ne suis pas seul, Abbé Laurental considère aussi, je suis en compagnie de gens plus savants que moi, que ce n'est pas clair, en ce sens que c'est plutôt une négation sur le texte de Nostra Aetate, le paragraphe 3, n'est pas clair du tout. C'est vrai que les Juifs sont lavés du déicide, etc. Bon, mais
avec dans un ensemble de persécutions des peuples qui ont été persécutés, au sein desquels se trouve Israël. C'est-à-dire, bon, donc c'est satisfaisant, mais ce n'est pas totalement satisfaisant, bon, donc, parce que c'est une position d'équilibre. Bon. Alors après, l'Israël est reconnu, vous savez, donc je l'ai dit, de facto. Mais c'est déjuré que ça intervient en 93. Et là, c'est à peu près clair. Mais je dirais, dans les circonstances actuelles, les relations israélo-palestiniennes font que, pour les uns, c'est très clair, pour d'autres, ça ne l'est pas. Bon. Alors, le premier voyage en Israël, qui est le premier grand voyage, qui est un voyage pastoral, et autant que politique, de Paul VI, en 1963, est très bien équilibré, parce que le pape survole les territoires auxquels il envoie tous, pas tous les chefs d'État, il envoie des messages de félicitations, et il bénéficie d'autorisation de survoler le territoire, ce qui est tout à fait normal. Bon. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que, si vous faites... Le pape n'a jamais été menacé en Israël. Bon, jamais. Et d'autre part, on ne parle pas de voyage... En Israël, on parle de voyage en Terre Sainte, hein, ce qui n'est pas du tout pareil, Terre Sainte. Donc, ce qui d'ailleurs expertise le fait que le Saint-Siège ne reconnaît pas Israël, mais il va en Terre Sainte, oui. Oui. Donc, il y a une question des lieux saints. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à tout.
Non, attends, pardon. Israël, l'État d'Israël est reconnu par le Vatican depuis 1993, c'est pas la Terre Sainte, c'est l'État d'Israël.
Je suis d'accord, mais quand il voyage, il va... Alors, je crois que Jean-Paul II est le premier qui faisait un voyage en Israël. Oui. Mais en 63, c'est un voyage en Terre Sainte.
Ça, c'est clair. Celui de Paul VI.
De Paul VI, oui.
Paul VI, c'est en Terre Sainte. Mais,
en Terre Sainte.
Mais, et c'était le moment, c'est juste après Vatican II.
Oui.
L'accusation de déicide, c'est peut-être la seule faiblesse de Vatican II. L'accusation de déicide n'apparaît pas. Elle n'apparaît pas. Les sœurs de Sion, qui avaient préparé tout le travail des pères conciliaires, avaient mis cela dans la liste des choses à mentionner dans Vatican II. Les pères conciliaires ont décidé de ne pas le mentionner, considérant, ce qui prouve qu'ils étaient déjà plus jésuites que pères conciliaires, considérant que, puisqu'on ne peut pas tuer Dieu, on ne peut pas condamner à une accusation de déicide, ce qui, sur la logique, n'est pas complètement faux. Mais en même temps, ça avait causé tellement de morts qu'il était intéressant de le mettre. Ce qui montre qu'il y a toujours des équilibres au sein de l'Église.
Oui. Alors je crois qu'une question, je souviens une question très importante, si vous permettez.
Rapidement, parce que j'ai encore plusieurs questions.
Bon, le grand problème qui n'est pas traité à fond, qu'a essayé de traiter Milpula dans leur ce qui est caché, c'est la relation qu'il y a entre l'antisémitisme et l'antijudaïsme. Bon. Et par exemple, quand Paul VI avait entrepris la béatification de Père Dehon, qui a fondé la compagnie des prêtres de Saint-Quentin, qui est une compagnie éducative, qui a des foules d'écoles ouvertes partout, notamment en Pologne. Donc, le Père Dehon fait avancer la cause qui est dénoncée par un historien français en disant « Mais le cardinal Rampolla, qui a préfacé tous les ouvrages du Père Dehon, en fait, loue un cardinal que nous connaissons tous, qui a failli être sur dire Léon XIII, Bonheur Pilis, mais il est terriblement antisémite. » Et le grand débat qui a lieu au Vatican à ce moment-là, là, je peux le dire franchement, j'y ai participé à la commission, c'est que Benoît XVI demande expressément à une commission spéciale de se prononcer sur ce qu'il y a d'antisémites dans les préfaces du cardinal Rampolla. Elles sont notoirement antisémites, parce qu'en fait, son antisémitisme s'appuie sur l'antijudaïsme. Bon, alors, Benoît XVI pose la question à la commission. Est-ce que l'antisémitisme est relatif ou pas ? Est-ce qu'on peut le relativiser dans l'histoire ? Est-ce qu'on peut dire qu'à la fin du 19e siècle, l'antisémitisme était relatif parce qu'en gros, tout le monde était antisémite ? Bon. La réponse de la commission... Alors, le pape demande, à ce moment-là, que la commission ne réponde ni oui ni non, mais qu'elle lui fournisse un dossier à deux volets, où c'est lui qui décide du oui ou du non. Bon. Et donc, il suspend brusquement la canonisation, qui est préparée. La fête pour la béatification du Père Dehon est préparée. Tout est préparé. Tous les Dehoniens d'Amérique latine, de Pologne, etc., sont préparés à se rassembler. Et le pape Benoît XVI dit c'est non. Parce que la commission a tranché entre les deux, et moi, j'ai choisi le non. Voilà. C'était un grand tumulte chez les Dehoniens, notamment. Donc, je ne sais pas si vous voyez, le problème est là. Alors, aujourd'hui, je pense qu'on se rend compte que l'antijudaïsme, d'ailleurs, qui a été, si vous voulez, surmonté par l'expression qu'on enlève, c'est pas nos frères aînés, c'est plus... Non. Comment ? Frères oui. Donc, c'est tranché dans ce sens-là. Voilà. Je ne sais pas si je vous satisfais assez, mais...
Je vous remercie. Je crois que c'est un débat qui nécessiterait encore plus de temps. Et je donne maintenant la parole à M. Mattei.
Merci, Monsieur le Président. D'abord, merci à Philippe Le Vilain de tout ce qu'il nous a dit. Je me permets une question naïve, mais rebondissant sur la question de Jean-Robert Pitt. Dans le chapitre du rôle du Vatican et du Saint-Siège dans la vie internationale, quelle importance accordez-vous à l'élection d'un pape ? Est-ce que il y a dans le choix du pape une intention politique ou en tout cas diplomatique? Et naturellement, je pense à Jean-Paul II, et on pourrait penser au pape François, qui marque l'un et l'autre un intérêt diplomatique marqué. On a présenté Jean-Paul II comme un pape providentiel, au moment où justement on approchait de la chute du mur. Et maintenant, au moment où on parle de mondialisation, c'est la première fois qu'un pape non-européen, à ma connaissance, est désigné. Au-delà donc de l'organisation d'une diplomatie qui est pensée, qui est voulue, qui est dirigée, est-ce que l'élection d'un pape n'a pas une influence sur la vie internationale?
Ah si, tout à fait. Je crois que il y a des critères vu de l'extérieur qui sont, si j'ose dire, élémentaires. Pie XII est élu parce que la guerre est en branche. On sait que c'est un très grand diplomate et qu'il a été un des artisans, je dirais, de la politique vis-à-vis de l'Allemagne, parce qu'il était plutôt philo-germaniste, mais pas philo-nazi. Et on sait que c'est un grand diplomate, et on le prend parce qu'on pense qu'il va pouvoir négocier la situation de la guerre. Car en plus, c'est lui qui est le rédacteur de l'encyclique Mildbrennerzorg avec le père Leiber, qui est un jésuite. Bon, Paul VI, c'est parce qu'au fond, et l'élection de Paul VI, contrairement à ce qu'on a dit, a été très difficile. Parce que vous savez, c'est le fameux slogan, si je le dis, la fameuse devise, qui entre pape au concile en sort cardinal. Très, contrairement à ce que l'on dit, ça, j'ai même écrit, c'est pas une élection facile. Mais le principe est acquis qu'il faut que les conclaves soient brefs. Donc, on essaye de forcer le destin. Jean XXIII, c'est parce que, très simplement, on cherche un pape de transition, ça c'est vrai. Parce que le conclave est désarmé après la mort de Pie XII, qui est pourtant au bout d'une longue agonie, parce que on s'attend à quelque chose quand même. Bon. Alors, l'élection de Benoît XVI, plutôt de Jean-Paul II, ça, c'est les fruits de Vatican II, parce que le Voltila joue un rôle capital dans le concile pour la liberté religieuse, contre la condamnation du communisme et de l'athéisme demandé par ceux qui sont, enfin, la partie le fait, tout ce que vous voulez, les immodérés, une partie de la curie, il est contre. Il prépare d'autre part tous les schémas de Gaudium et Spes, qui s'appelle à l'époque le schéma 13. Bon. Et donc, il est très populaire, il prêche le carême, et d'autre part, il n'y a pas de doute qu'on sait que sa grande obsession, c'est la chute du communisme, ça on le sait. Donc, il est élu, vous savez quand même, c'est assez inouï, il est élu au troisième tour par 99 voix sur 120. Au troisième tour. Bon. Alors, Benoît XVI, c'est parce que je crois qu'après le désarroi de, j'allais dire, du mouvement perpétuel que Jean-Paul II a mis dans l'Église, on cherche un personnage stable, théologique, et qui puisse véritablement rapporter la doctrine plutôt que la pastoralité. Il se met à la pastorale. Bon. Quant à Bergoglio, alors là, écoutez, je vais m'interrompre, Monsieur le Président, parce que je l'ai analysé dans un livre, je suis désolé de me citer, mais c'est une affaire qui est inouïe, parce qu'en réalité, on ne trouve pas de successeur à Benoît XVI, à Jean-Paul II, le premier coup. Et Bergoglio a des voix au conclave de 2005, il faut le savoir, ça. Bon, donc, et ça étonne beaucoup tout le monde. On se dit, mais d'où il vient, parce que, et en fait, pour dire, d'une certaine façon, il éprouve son successeur, mais en 2012, il était, je ne sais plus, en fait, l'élection est prête. Voilà. Alors, ça pèse ensuite sur le pays. Alors, plus globalement, plus universellement, ce que le conclave cherche est maintenant un personnage et un pape à la dimension universelle du christianisme. Voilà, ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mais il y a quand même de l'inattendu chez les papes, vous savez. Mais c'est des élections qui ratent.
L'Esprit Saint est là.
Cet esprit.
L'Esprit Saint est là.
Vous savez,
je donne maintenant la parole à l'ambassadeur Stefanini.
Merci, Monsieur le Président. Juste quelques petites notations contemporaines et peut-être un petit peu juridiques en complément de ce que vient de nous décrire de manière très exhaustive Philippe Le Vilain. ayant eu la chance à la fois d'être en poste récemment auprès du Saint-Siège et étant actuellement en train de représenter la France auprès d'une organisation internationale où le Saint-Siège entretient un observateur permanent. Alors, je voulais dire que la situation actuelle est très très bonne pour le Saint-Siège. D'abord, personne ne conteste sa participation aux enceintes internationales. Personne. Ensuite, son statut d'observateur dans la plupart des forums lui permet de ne pas être embringué dans un certain nombre de conflits politiques ou politisés du moment, tout en ayant une sorte de magistrature humaniste qui va bien au-delà de la confession catholique. Je pense par exemple que 2015, le grand moment, ça a été l'encyclique Laudato Si, qui a vraiment pesé sur la négociation de la COP21 et nous a permis d'aboutir aux accords de Paris de décembre 2015. Ensuite, pour répondre un petit peu à la question de M. Cotte, les diplomates au Saint-Siège sont vraiment le squelette, l'architecture essentielle de la curie romaine. Je dirais non seulement les diplomates, mais les diplomates italiens. Ils sont très bien formés à l'Académie pontificale diplomatique, l'Académie pontificale ecclésiastique, comme elle s'appelle, et ils échangent postes à l'étranger et postes de structure de curie. Le secrétaire d'État actuellement est un ancien nonce, le substitut est un ancien nonce, le secrétaire aux relations avec les États, bien évidemment, celui-là c'est naturel, est un ancien nonce. Et donc il y a vraiment, je dirais que c'est le noyau dur de l'administration pontificale. Et d'ailleurs, il y a un élément qui me paraît évident, c'est que cette structure et de cet État fictif sans population permanente et sans vrai territoire et confessionnel, ce qui est quand même assez rare dans le monde contemporain où la plupart des États se veulent laïcs, cette structure se fait dans l'intérêt de l'Italie, parce que c'est encore aujourd'hui largement des Italiens ou des italophones. Et d'ailleurs, Bergoglio a été élu parce qu'il parle parfaitement bien italien, de par ses origines. Et puis également, d'une certaine manière, ça permet d'assurer un poids plus grand de l'Europe dans son ensemble. Parce que, comme le disait le professeur Soutou, c'est la direction de l'Union européenne qui gère les relations avec le Saint-Siège, chez nous, déjà du temps de son père et encore aujourd'hui. Et évidemment, Rome est installée à Paris. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'en tant qu'État du Vatican, le Saint-Siège fait partie de la zone euro et fait partie de l'espace Schengen. C'est-à-dire qu'il est plus intégré dans l'Union européenne, par certains côtés, que ne l'est la Grande-Bretagne, pré-Brexit. Donc, cette présence à Rome, au cœur de l'Union européenne, du Saint-Siège et de l'État du Vatican, est aussi pour nous, collectivement européens, un élément d'attractivité. Voilà, merci.
Je vous remercie beaucoup. Ça n'appelle pas, je pense, de commentaires complémentaires. Merci de ces indications extrêmement précises et intéressantes. Il n'y a pas d'autres commentaires ni d'autres questions. Je n'ai oublié personne. Bien, ben, écoutez, chers confrères, je vous remercie beaucoup de cette communication qui nous a tous vivement intéressés, replongés dans l'histoire et dans le droit international. Et je lève maintenant la séance.